Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Il est 7h en temps universel. Je suis Nanit Talani. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 1er novembre 2023. La commission électorale sénégalaise demande au ministère de l'Intérieur de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Mohamed Bazoum, ex-président du Niger, accusé d'évasion. Des djihadistes tuent 17 personnes au Nigeria qui refusaient de payer une taxe. Le roi Charles III reconnaît les atrocités commises par les Britanniques au Kenya pendant la colonisation. La MINUSMA quitte Kidal, sans rétrocession du camp à l'armée malienne, faisant craindre de futurs affrontements. Le Hamas dément la mort de son commandant que l'IDF affirme avoir tué. Et puis il y aura bien sûr vos rendez-vous habituels avec l'économie et la page sportive. En attendant, voici le journal. Des dizaines de Palestiniens ont été tués hier mardi dans le bombardement d'un camp de réfugiés de la bande de Gaza. L'armée israélienne a confirmé cette frappe qui visait, selon elle, un commandant du Hamas, Ibrahim Biari, présenté comme un des responsables de l'attaque du 7 octobre. Le point avec Eric Manirakiza.
L'élimination du commandant du Hamas a eu lieu dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre les terroristes, selon l'armée israélienne, et les infrastructures appartenant au bataillon central de Jabalia. Le Qatar a condamné le bombardement et mis en garde contre l'extension des opérations israéliennes à Gaza, craignant qu'elles ne compromettent les efforts de médiation et de désescalade. Le directeur du FBI a alerté que la guerre entre Israël et le Hamas accroît le risque d'attaque sur le sol américain, notamment contre les communautés juives et musulmanes. À Jérusalem, le patriarcat orthodoxe a dénoncé le bombardement de son centre culturel de Gaza par Israël. Depuis ce week-end, l'armée israélienne a progressivement déployé des troupes au sol et intensifié ses frappes aériennes. La situation humanitaire dans la bande de Gaza est alarmante, privant les habitants de livraison d'eau, de nourriture et d'électricité. La situation des hôpitaux inquiète les ONG. Les patients manquent de médicaments et des milliers de civils s'y réfugient. Israël accuse le Hamas de se servir des hôpitaux pour cacher armes ou combattants, ce que le Hamas nie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément inquiet de l'intensification du conflit, mettant en garde contre le risque d'une dangereuse escalade au-delà de Gaza.
Les forces de défense israéliennes affirment que la frappe des avions de combat sur Jabalia, le plus grand camp de réfugiés de Gaza, a tué Ibrahim Biari, un commandant du Hamas, qui était essentiel dans la planification et l'exécution de l'attaque du 7 octobre. Des dizaines de combattants du Hamas se trouvaient dans le même complexe de tunnels souterrains qu'Ibrahim Biari et ont également été tués, précise le porte-parole de l'IDF, le lieutenant-colonel Jonathan Conricius. Celui du Hamas, Hazem Kassem, nie la présence d'un commandant de haut rang dans le camp et qualifie cette affirmation de prétexte israélien pour tuer des civils. Un résident noir ou hispanique de l'État de New York a deux fois moins de chances qu'un résident blanc d'être propriétaire de son logement en raison de discrimination raciale pour décrocher un prêt immobilier, a dénoncé mardi la justice new-yorkaise. La procureure générale de l'État, Laetitia James, élue du Parti démocrate et magistrate afro-américaine, déplore que l'accès inégal à un crédit abordable demeure systématique dans l'État de New York. Pour la patronne de la justice new-yorkaise, les discriminations raciales pour décrocher un prêt immobilier alimentent ce qu'il reste de la ségrégation, ce qui conduit à des disparités entre propriétaires et creuse le fossé des inégalités de richesse en fonction de la race. Au Brésil, le tribunal supérieur électoral a de nouveau déclaré inéligible ce mardi l'ancien président Jair Bolsonaro pour avoir commis un abus de pouvoir en utilisant les célébrations du bicentenaire de l'indépendance le 7 septembre 2022 à des fins électorales. La justice lui a également infligé une alliance, une amende plutôt d'environ 80 000 euros. Par ailleurs, les autorités brésiliennes enquêtent sur la mort d'un indigène, un chef, Tibectodem Arara, retrouvé mort dans la rivière Iriri dans le nord du Brésil, 16 jours après avoir dénoncé la déforestation et les invasions sur les terres de son peuple à l'ONU. L'autopsie de son corps a conclu à une mort par noyade, mais les autorités n'excluent pas une intervention criminelle. Le décès d'Arara a suscité l'indignation des organisations de défense des droits des peuples autochtones qui accusent le gouvernement brésilien de ne pas faire suffisamment pour protéger les populations indigènes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, la commission électorale a demandé hier au ministère de l'Intérieur de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui délivrer des documents essentiels pour sa candidature à la présidentielle de 2024. Le point avec Mouamadou Oumfa.
Monsieur Sonko doit jouir de son statut d'électeur inscrit sur les listes électorales avec tous les droits qui y sont attachés, dit la CENA, Commission électorale nationale autonome, dans un courrier envoyé à la Direction générale des élections, un organe du ministère de l'Intérieur. La CENA, dans sa lettre, invite la Direction générale des élections à prendre les mesures nécessaires pour faire tenir à la disposition du mandataire de Monsieur Ousmane Sonko, dans les meilleurs délais, la fiche de parrainage. Un porte-parole de la CENA a aussi reconnu que la commission ne peut pas contraindre le ministère de l'Intérieur. Monsieur Sonko a été radié des listes électorales. Le gouvernement a avancé sa condamnation par contumace dans une affaire de mœurs pour justifier sa radiation. Monsieur Sonko, emprisonné depuis fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dénonce ces affaires comme des complots pour l'écarter de la présidentielle. Un juge de Ziguinchor a ordonné le 12 octobre que M. Sonko soit rétabli sur les listes. Le ministère de l'Intérieur a cependant refusé jusqu'alors de lui délivrer les fiches officielles qui lui permettraient de recueillir ses parrainages, une étape nécessaire au dépôt de sa candidature. Ses avocats ont aussi saisi la Cour de justice de la CEDEAO et la juridiction régionale a décidé de se donner jusqu'au 6 novembre pour trancher.
Le procureur général du Niger, Salisu Chaibou, a affirmé hier qu'il y a eu tentative d'évasion de l'ancien président Mohamed Bazoum, renversé par un putsch le 26 juillet. Les avocats de Bazoum nient tous les faits. Selon M. Chaibou, Bazoum, sa famille, sa sécurité et ses cuisiniers ont été arrêtés dans la nuit du 18 au 19 octobre, alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais présidentiel, transportant divers colis. L'enquête a également permis de découvrir d'importantes sommes d'argent en francs CFA et en devises étrangères, ainsi que divers biens précieux dans la résidence de M. Bazoum, indique le procureur. M. Chaibou ajoute qu'une enquête est en cours et que 23 civils et militaires ont été interpellés dans le cadre de cette affaire. Au Nigeria, 17 personnes sont mortes et 5 autres blessées lors d'une attaque menée par des djihadistes affiliés au groupe État islamique dans un village du nord-est du pays dont des habitants avaient refusé de leur payer une taxe et tenté de fuir, a affirmé mardi une milice anti-djihadiste. L'attaque a été menée en représailles au refus des villageois de payer aux djihadistes une taxe qu'ils exigeaient sur le bétail, a confirmé Aboubakar Adamou, un autre membre de la milice qui a donné le même bilan. Le roi Charles III a déclaré hier qu'il n'y a aucune excuse pour les atrocités commises par les Britanniques contre les Kenyans lors de sa visite dans le pays. Le point avec Rosine Munezero.
Des actes odieux et injustifiables ont été commis à l'encontre des Kenyans alors qu'ils menaient une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté. Et pour cela, il ne peut y avoir aucune excuse, a déclaré le roi Charles lors d'un banquet d'État organisé par le président kényan William Ruto. Le roi Charles a déclaré mardi qu'il espérait rencontrer certains de ceux dont les vies et les communautés ont été si gravement affectées par les abus coloniaux. Rien de tout cela ne peut changer le passé, mais en abordant notre histoire avec honnêteté et ouverture, nous pouvons peut-être démontrer la force de notre amitié aujourd'hui, a-t-il déclaré. Après une procédure judiciaire de plusieurs années, la Grande-Bretagne a accepté en 2013 d'indemniser plus de 5000 Kenyans qui avaient subi des sévices pendant la rébellion des Mau Mau dans le cadre d'un accord d'une valeur de près de 20 millions de livres, soit 25 millions de dollars au taux actuel. Cette visite est la première tournée du chef de l'État britannique dans un pays d'Afrique et du Commonwealth depuis qu'il est devenu roi l'année dernière.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, c'est l'heure de suivre les dernières nouvelles économiques en Afrique avec Rosine Munezero.
Le président américain Joe Biden a décidé de supprimer l'accès de la République centrafricaine, du Gabon, du Niger et de l'Ouganda à l'AGOA, leur reprochant des atteintes à la démocratie et aux droits humains. Monsieur Biden a annoncé au Congrès qu'il va retirer les 4 États de la liste des pays bénéficiaires du African Growth and Opportunity Act, qui permet aux pays africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis sans acquitter de droits de douane. Le Fonds monétaire international a annoncé mardi être parvenu à un accord avec le gouvernement centrafricain à l'issue de la première visite liée au plan d'aide à destination du pays en mars dernier et débloqué 25 millions de dollars supplémentaires. Il s'agit de la première étape du plan de 191 millions de dollars prévu pour éviter une crise humanitaire dans le pays. Le constructeur automobile japonais Toyota a annoncé mardi un investissement supplémentaire de 8 milliards de dollars, portant le total à près de 14 milliards dans son usine de batteries en construction en Caroline du Nord, aux États-Unis. Cet investissement renforce l'engagement de Toyota envers l'électrification et la réduction des émissions de CO2, a relevé le président de Toyota North Carolina, cité dans le communiqué.
Et maintenant, nous accueillons Yacouba Ouedraogo pour faire le point sur l'actualité sportive. Bonjour Yacouba.
Bonjour à tous.
Nous commençons par la 6e étape du Tour cycliste du Faso qui se dispute ce mercredi.
Oui, le peloton ira de Ouagadougou à Koudougou, 107,6 km. Hier, le Burkinabé Paul Domon a remporté l'acte 5 du Tour du Faso, couru entre Tenkodogo et Zorgo, 75,400 km, la plus petite distance, temps mis 1h33 minutes 27 secondes, avec une vitesse moyenne de 48,410 km/h. Paul Domon a devancé l'Ivoirien Abou Sanogo, arrivé deuxième, et le Marocain Achraf Egg Dogmi, troisième. Il décroche ainsi sa troisième victoire d'étape dans cette 34e édition et conserve le maillot jaune du leader. L'arrivée finale est prévue pour ce dimanche 5 novembre à Ouagadougou.
L'Arabie Saoudite seule en lice pour organiser le Mondial 2034.
C'est ce qu'a annoncé la FIFA. L'Arabie Saoudite devrait donc officiellement décrocher fin 2024 le tournoi le plus populaire du monde si tous les critères techniques sont remplis. Rotation continentale oblige, la FIFA n'avait invité à postuler que les pays membres des confédérations asiatiques et océaniennes. Des 22 éditions passées du tournoi planétaire masculin, 2 seulement ont été attribuées à des pays d'Asie. Le tandem Japon-Corée du Sud en 2002 et le Qatar l'an dernier, l'Océanie n'en a jamais organisé. Le royaume ultra-conservateur a multiplié les investissements dans le football, mais aussi la Formule 1 ou le golf. L'Arabie Saoudite va succéder à un attelage tricontinental inédit pour l'édition 2030, partagé entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec 3 matchs prévus en Amérique du Sud.
Pour terminer, Yacouba, ici en NBA, James Harden quitte finalement Philadelphie.
L'ex-MVP de la NBA va être transféré des Sixers de Philadelphie aux Clippers de Los Angeles. James Harden, sacré meilleur joueur de la Ligue en 2018 et meilleur marqueur en 2018, 2019 et 2020, était en conflit depuis plusieurs mois avec son club de Philadelphie qu'il souhaitait quitter, selon le média sportif ESPN. Il sera accompagné en Californie des intérieurs P.G. Tucker et Philippe Petrusveff. En échange, les Clippers envoient en Pennsylvanie le vétéran français Nicolas Batum, les ailiers Marcus Morris et Kenyon Martin Jr., ainsi que l'intérieur Robert Covington. Aux Clippers, Harden va retrouver notamment Russell Westbrook, avec qui il a déjà joué en début de carrière au Thunder d'Oklahoma City, puis aux Rockets de Houston. Après Oklahoma City, Houston, Brooklyn et Philadelphie, les Clippers seront le 5e club de la carrière du meneur de 34 ans.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani de retour pour notre page magazine. Au Mali, la MINUSMA quitte définitivement la ville de Kidal ce mardi, bien avant la date convenue avec les autorités de la transition. Une situation qui fait craindre de futurs affrontements, c'est un reportage de Mohamed Danyoku.
Face aux images et à l'information du départ définitif des derniers convois de la MINUSMA de la ville de Kidal, des Maliens s'insurgent contre ce départ qui se fait sans rétrocession du camp à l'armée malienne. Amadou Kouyaté, citoyen.
C'est une flagrante violation quand même des calendriers des forces onusiennes au Mali. Et du moment où l'accord a été signé entre l'État malien et les forces onusiennes à travers notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.
La MINUSMA, au dire de certains, avait conformément à la résolution 2690 et au chronogramme établi le devoir d'informer de la date exacte de ce départ. Kossa Maïga, citoyen.
Il faut au moins quand même communiquer votre date pour mettre le gouvernement à l'aise, pour que le gouvernement puisse se préparer et amener les hommes sur le terrain. Mais lorsque vous décidez unilatéralement de quitter dans un lieu aussi important et stratégique pour le gouvernement sans les avertir, je considère ça comme une trahison.
Après le communiqué de la MINUSMA pour dénoncer la situation sécuritaire dans la ville, il fallait s'attendre à ce départ qui ne sera pas sans conséquences. Omar Konaté, journaliste.
Puisqu'elle a fait un communiqué pour parler de l'insécurité qui la pousse à prendre une telle décision, le Mali n'avait pas d'autre recours. Donc, on ne peut que s'en remettre à cette décision. Mais c'est un goût amer pour le Mali parce que, à cette allure, nous ne sommes pas à l'abri d'une confrontation entre l'armée malienne et les groupes armés.
Il y a 24 heures, la MINUSMA a annoncé l'arrivée à Gao du convoi des casques bleus tchadiens qui a quitté Tessalit et Aguelhok les 21 et 23 octobre dernier. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
En RDC, Marie-Josée Ifoku, seule candidate à la présidentielle en 2018, se présente à nouveau en 2023. L'ancienne gouverneure de la province de Chuapa est célèbre pour ses déplacements dans le pays avec son balai qu'elle a notamment remis au président de la CENI lors du dépôt de sa candidature. Nathalie Barge lui a tendu le micro.
Chez nous, dans notre tradition, le balai représente le pouvoir. Et donc ce balai représente beaucoup de choses. Ça représente l'unité, ça représente l'amour, ça représente le nettoyage. Notre organisation politique, il va falloir le nettoyer. Et donc c'est ainsi que nous avons remis ce balai-là à M. Kadima, pour que cette fois-ci, qui puisse nous aider à avoir des meilleures élections. Je compare par rapport aux trois autres, hein, puisque c'est un parcours, c'est un chemin, et il va falloir que lui aussi puisse être un modèle de responsable. Et d'abord, je voudrais dire l'affichage de listes électorales dans chaque bureau de vote. Et au moment du comptage, il faudra que la publication se fasse aussi par bureau de vote. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur la CENI, et nous voulons qu'elle-même puisse aussi se corriger.
Vous êtes présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo et vous vous présentez en indépendante comme la plupart des candidats. Pourquoi ?
Oui, effectivement, je me suis présentée candidate indépendante puisque la proposition que je voudrais faire au peuple congolais est au-delà de mon parti politique. En fait, je le fais comme une citoyenne congolaise qui en a marre de tout ce qui se passe dans notre pays. Il y a un vrai problème de gouvernance, il y a un vrai problème d'un mode de gestion de la chose publique, et le problème est réel. Et donc la proposition que j'emmène au peuple congolais, c'est vraiment un nouveau contrat social audacieux, c'est une proposition inédite, c'est bouleverser ce qu'il y a, ce qui existe. Ce nouveau contrat social va nous permettre de mettre en place une nouvelle république. Ce sera une république qui ne sera plus faite pour un groupe d'individus ou faite sur mesure pour un individu, mais ce sera une constitution qui tient compte de notre histoire, d'où nous venons, où nous sommes rendus aujourd'hui et où nous voulons emmener le Congo.
Comment vous y prenez-vous pour convaincre les électeurs et électrices qui sont encore réticents à l'idée de se prononcer en faveur d'une femme ?
En fait, pour les électrices, ça devrait être la chose qui irait de soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'accompagnent et c'est eux qui me disent que depuis 1960, les hommes ont gouverné. Il n'y a eu aucun réel développement économique, il n'y a pas eu de développement économique et il n'y a eu aucune amélioration des services sociaux de la population congolaise. Et donc, eux aussi comprennent que donner la chance à une femme, c'est une réelle opportunité pour la République démocratique du Congo, qu'on soit en termes de sécurité, en termes d'éducation, parce que qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et donc, clairement, si nous voyons ces femmes-là dans la gestion de la chose publique, clairement, il y aura une amélioration. Et donc, nous sommes en train de les conscientiser, nous sommes en train de les sensibiliser, nous sommes en train de leur faire comprendre que la femme a une gestion participative. Elle ne cherche pas à écraser nécessairement l'autre, mais bien au contraire, elle invite les autres à participer à cette gestion-là.
Pour l'entretien intégral de Marie-Josée Ifoku, candidate à la présidentielle en RDC, rendez-vous dans Le Monde au féminin sur voaafrique.com.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Kenya, des développeurs ont conçu une application de téléphonie mobile qui, selon la police, permet de protéger les smartphones contre le vol, de retrouver les téléphones portables volés et d'empêcher la perte de données. Le reportage depuis Nairobi de Victoria Amunga, le récit de Claire Morin-Gibourg.
Les smartphones qui contiennent des informations sensibles sont devenus un élément essentiel de la vie. Le vol d'un téléphone portable peut perturber la vie de son propriétaire de beaucoup de manières. Au Kenya, les vols de téléphones portables se multiplient. Selon la police, les téléphones portables volés représentent 21% des délits commis dans tout le pays. C'est un défi qu'ont voulu relever les développeurs kényans en créant une application mobile qui, selon eux, peut aider à protéger les smartphones des voleurs. L'application, appelée Xecure, a été conçue avec des options de sécurité qui dépendent de la façon dont le smartphone est utilisé et de l'endroit où il est placé, par exemple dans une poche ou sur une surface. Ibrahim Barry est le directeur des opérations de la société californienne Xecure Technology Solutions.
Let's say you are in an office whereby you don't trust.
Disons que vous êtes dans un bureau où vous n'avez pas confiance dans toutes les personnes qui vous entourent. Vous l'activez et posez le téléphone. Si quelqu'un touche le téléphone, une alarme se déclenche et des photos de la personne qui tient le téléphone sont prises. Rien ne peut éteindre l'alarme à moins que vous ne rentriez le code PIN que vous avez choisi en tant que propriétaire du téléphone.
Au moins 300 utilisateurs ont téléchargé l'application depuis son lancement début octobre, indiquent les responsables de Xecure. Clarisse Kibi se souvient du vol de son téléphone portable.
C'était un pickpocket et sur le moment, je n'ai même pas su qu'il avait disparu. Parce qu'il était même attaché à ma poitrine. J'avais justement choisi un système pour que le vol à la tire soit difficile. J'ai donc été choquée lorsque j'ai réalisé que je n'avais plus le téléphone.
Pour l'expert en cybersécurité Evans Mungai, les smartphones volés ou compromis peuvent contenir une grande quantité de données. Ces technologies, comme cette nouvelle application, sont utiles, dit-il, mais elles ont aussi leurs limites.
Nous devons chercher des moyens d'impliquer les plus grandes sociétés et même les fabricants d'équipements afin qu'ils soient en mesure de suivre efficacement ces appareils à partir d'un numéro de série parce qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas en mesure de le faire et ils sont limités à la connectivité, par exemple.
Pendant ce temps, les autorités kényanes appellent le public à prendre des mesures supplémentaires pour protéger leur téléphone portable.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Le point sur la guerre entre Israël et le Hamas. Après pratiquement un mois d'hostilité, la tension ne cesse de monter. Combat au sol, progression méthodique de l'armée israélienne dans les ruines de Gaza et une situation humanitaire jugée désastreuse par l'ONU. Comment la troisième phase du conflit évoquée par le Premier ministre israélien se distingue-t-elle des précédentes? Quelles sont les séquelles régionales, voire mondiales, de cette confrontation? Et pourquoi la communauté internationale ne parvient-elle pas à s'entendre sur les actions pouvant conduire à la désescalade et au retour de la paix? Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Alors que le mois d'octobre vient de faire place au mois de novembre, Halloween est suivi par la célébration du jour des morts dans les communautés mexicaines américaines afin de nourrir la mémoire des êtres chers qui sont décédés. Jenia Dulot a visité l'une des plus grandes manifestations, le Día de los Muertos, jour des morts, au cimetière d'Hollywood Forever de Los Angeles. Le récit est de Rosine Munizero.
Chaque année, le jour des morts mobilise la communauté d'origine mexicaine très nombreuse à Los Angeles. Antonio Arroyo, lycéen, dirige le groupe de danse Jóvenes Alegres, qui présente une danse mexicaine traditionnelle de l'état du Michoacán en hommage à son père décédé.
La tradition s'appelle Corpites, danza de Corpites de San Juan Nuevo. Et tout ce que nous portons vient de là-bas, de San Juan, et ils font tout à la main.
Le premier jour des morts dans le cimetière Hollywood Forever a eu lieu il y a 24 ans. L'événement est passé de 3 hôtels et 200 participants à plus de 100 hôtels et 20 000 visiteurs à Los Angeles, qui compte une importante population mexicaine américaine. Céline Mares est cofondatrice de l'événement Day of the Dead.
Ici à Los Angeles, la population s'est vraiment intéressée à l'événement parce qu'il n'y avait rien de tel dans le cimetière de Los Angeles.
Malgré son héritage mexicain, elle n'a pas grandi aux États-Unis avec les traditions de sa culture. Elle veut changer cela pour les jeunes générations d'Américains d'origine mexicaine. Jenny Morales, enseignante américaine de première génération, crée cet hôtel depuis 6 ans à la mémoire de membres de sa famille et pour explorer le symbolisme du papillon monarque.
Il existe une légende au Mexique, en particulier dans le Michoacán, un état du Mexique, où la légende veut que le papillon monarque porte les âmes de nos proches décédés. À cette époque, le jour des morts, il y a un endroit dans le Michoacán, c'est comme un sanctuaire, c'est dans les montagnes. Alors, ils viennent toujours en novembre. La légende veut qu'ils reviennent, les âmes de nos proches décédés.
Dans le comté de Los Angeles, les Hispaniques ou Latinos constituent le groupe ethnique le plus important, près de 5 millions de personnes selon le recensement de 2021 et 75% sont d'origine mexicaine.
Accueilli chez vous. Merci à toute la rédaction qui a contribué à sa réalisation. Un merci spécial à Michel Joseph qui était à la réalisation et à Kelvin Fowler qui était à la console. Au micro, Nanit Talani. Pour ne rien manquer de l'actualité, nous vous invitons à rester connectés sur notre site internet voaafrique.com et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X et YouTube, pour plus d'informations 24 heures sur 24. Excellente journée à vous et à bientôt.